Fédération française de cardiologie, avec le concours de Bayer Pharma France, vous présente Rendez-vous avec mon cœur, en compagnie de Max Meynier.
Salut les artistes, voilà, ici c'est Max Meynier. Alors, tel que vous me voyez, ou plutôt tel que vous ne me voyez pas, ça me rappelle quand je faisais Paris la nuit, vous savez, là je démarre, je suis... En fait, c'est le matin, c'est presque Bordeaux la nuit, ce jour se lève à peine, je me suis sur un banc, à l'entrée d'un bâtiment d'allure très moderne, plutôt sympathique. Cela dit, c'est le genre de bâtiment dans lequel il vaut mieux pas pénétrer, c'est un hôpital. C'est un hôpital très réputé, un hôpital cardiologique, c'est l'hôpital du Haut-l'Évêque, qui est à Pessac. Pessac, je sais qu'il y a pas mal de routiers qui nous écoutent, eh bien, vous connaissez bien, c'est juste à la périphérie de Bordeaux. On est à 200 mètres de la rocade. Alors, pourquoi je suis là? Eh bien, tout simplement, pour une raison bien simple. Vous savez, pendant près de 15 ans, on avait rendez-vous chaque soir sur RTL, rituel. Hein, je commençais, je vous avais salué les artistes, comme j'ai commencé tout à l'heure, et c'était les routiers. Et puis un soir, ben, j'étais pas au rendez-vous. Je suis pas venu. Il n'y a pas eu de salut les artistes. J'avais un autre rendez-vous. Et ce soir-là, j'ai loupé le rendez-vous avec vous parce que j'avais un rendez-vous beaucoup moins sympa. J'avais un rendez-vous avec mon cœur. Et ce cœur, hein, ce moteur qu'on a tous, qui nous fait tourner, eh bien ce cœur, un jour, en a eu marre. Parce que ce cœur, j'avais bien chahuté. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je fumais comme un sapeur, excès de bouffe, excès de cholestérol, le sédentarité, le stress, enfin vous connaissez la chanson. Tout ce qui un jour vous déclenche le pépin. Et moi j'ai eu le pépin, comme beaucoup d'autres. J'ai fait un infarctus, bon je passe les détails. Et à partir de là, c'est les ennuis, les gros ennuis qui ont commencé. Les ennuis sur le plan personnel, les ennuis sur le plan professionnel. C'est l'arrêt de l'émission, c'est l'arrêt de la bonne vie, c'est l'arrêt de tout finalement. Et puis j'ai tenté, je dis bien tenté de subsister comme ça pendant 5 ans. Et puis ça a été chute et rechute. J'étais à la merci de n'importe quoi jusqu'au jour où on est arrivé à la dernière extrémité. Vous le savez, il a fallu me faire une transplantation cardiaque. Voilà. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Eh bien c'est pour vous éviter à vous d'arriver à cette extrémité. Parce que moi j'étais comme la plupart des gens, comme vous tous, je connaissais les risques. Je savais qu'il y avait un risque d'infarctus, je savais qu'il y avait un risque de cancer, cancer du poumon, cancer de la gorge, cancer de la vessie, cancer de tout ce que vous voulez. Mais on dit toujours, c'est pas pour moi, je passerai au travers, ça sera pour les autres, puis on se dit, on verra bien. Eh bien j'ai vu. Alors... C'est pour vous éviter simplement. Je ne suis pas là pour vous faire ni la morale, ni pour vous faire peur. C'est pour vous éviter de tomber dans le piège. Et pourquoi je suis venu à Bordeaux? Parce qu'à Bordeaux, ici, dans cet hôpital du Haut-l'Évêque, il y a un monsieur qui s'appelle le professeur Broustet, qui est un éminent cardiologue, qui a décidé de mener une lutte effrénée contre le tabagisme, qui est une des causes principales des accidents cardiovasculaires. Ce n'est pas un discours de professeur. Et je veux vraiment que vous l'entendiez, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à me suivre ici, dans cet hôpital, dans lequel je vais pénétrer maintenant. Alors, c'est pas une conférence qu'on va vous faire. Imaginez-vous, vous êtes à l'écoute de la radio, comme vous l'étiez jadis avec moi, et puis on va se balader à l'intérieur de cet hôpital. Ok? Je vous propose d'écouter un disque, et on se retrouve dans quelques minutes. Madame la surveillante générale, tout va bien?
Tout va très bien.
Vous ne pouvez pas, j'espère?
Non.
Parfait.
Oui, mais j'ai arrêté.
Ah, c'est bien. C'est le professeur Broustet qui vous a...
Entre autres, oui.
Je sais que les cigarettes sont interdites ici.
Absolument. Absolument. Ils n'y tiennent pas du tout. Je crois qu'il a raison. Il nous a convaincus et nous sommes des non-fumeuses maintenant.
C'est bien. Donc là, je suis avec cette dame sympathique qui est la surveillante de cet hôpital à Pessac. J'étais donc toujours à la salle d'effort. Et là, change de salle. J'arrive dans la salle de gymnastique que j'ai bien connue dans d'autres établissements. C'est là où on vient faire la gymnastique douce en général lorsqu'on a eu un pépin cardiovasculaire. C'est ce qu'on appelle la réadaptation. Messieurs, je vous interromps 2 minutes dans votre séance de gymnastique. Vous êtes en train de mettre vos tapis par terre. Vous allez faire un petit peu d'abdominaux, je pense, en douceur. J'aimerais bien savoir la raison pour lesquelles les uns les autres vous êtes ici. Là, je vous vois avec une pastille sur la poitrine. Qu'est-ce que c'est, ça?
Bien, moi, j'ai subi une opération, un triple pontage.
Ah, triple pontage. Il y a combien de temps?
6 mois.
Et là, ça va?
Très bien, parfaitement.
Et à votre avis, la cause de ce triple pontage, c'est quoi?
Le tabac en partie, sûrement.
Parce que ça pour me faire plaisir, enfin pour me faire plaisir, non, si j'ose dire.
C'est comme on dit toujours.
Hein, c'est pas de circonstance, parce que non, bon, c'est vrai qu'on s'attaque au tabac, non, mais non, vous, non, oui.
Partie, oui, c'est sûrement. Et puis la réalité, c'est vraiment aussi. En partie aussi.
Les cigarettes, combien?
Plus d'un paquet par jour.
Et maintenant, c'est terminé?
Oui.
Complètement?
Complètement.
Ça vous manque?
Non, ça manque plus, non, c'est bien.
Vous regrettez?
D'avoir fumé, oui.
Ah, bon, j'espère.
Ça sort bien.
Vous n'auriez pas fumé, vous ne serez peut-être pas ici, sûrement maintenant.
Oui, je pense bien. Ouais.
Après, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Hein. Moi, je suis comme vous, alors c'est pour moi qu'il va vous donner des leçons. Hein. Mais après, c'est trop bête, une fois qu'on. On ne peut plus revenir en arrière, c'est dommage. Ah, oui. Voilà, là, je vais me mettre à quatre pattes parce que le monsieur est allongé sur son tapis. Alors, et vous? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous alors?
Eh bien, je sais pas, j'ai senti le malaise et il a fallu arrêter quoi.
Arrêter quoi?
Arrêter de travailler, de fumer surtout.
Et quand vous avez peur, vous avez un t-shirt qui fait de la publicité pour les cigarettes là.
Tu dessous, allumette.
Ah bon, d'accord.
Et puis, c'est un souvenir. Quand je suis serveur dans un bar, il passe nous laisser des pubs pour tout ça.
Oui, bien sûr.
Donc, je ne le porte pas dehors, mais.
Mais vous fumez plus?
Non, je fume plus. Avec le travail, je fume. Je fume parce que les autres fument devant moi.
Ah oui, c'est-à-dire vous subissez la fumée des autres.
J'avale et je tousse le matin. Et si tant que je pars en vacances, 3 jours, c'est fini. On tousse plus et on respire.
Mais avant vos problèmes, vous fumiez, non?
Oui, 2 paquets. 2 paquets par jour.
Et maintenant, vous vous sentez plus libre?
Plus libéré, oui. On respire mieux, on est plus à l'aise. On a la saveur qu'on avait plus. On goûte mieux tout. Les aliments, tout. On a des odeurs. On a des odeurs que l'on n'avait plus avant. On respire, on est.
Mais je suis sûr que vous avez pu vous arrêter le jour où vous avez eu le pépin.
Je me suis arrêté le lendemain, lorsque je suis rentré ici, au Lévesque. J'ai laissé la dernière cigarette devant la porte.
Là, vous avez terminé vos mouvements, là, vous mettez vos petites pastilles pour aller faire le.
Ça, c'est la décoration, si vous voulez, c'est la récompense.
Là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors là, le
vélo, là.
Je vais faire du tapis. Les tapis, d'habitude j'ai fait du vélo, une fois du vélo, une fois du tapis.
Alors qu'est-ce qui vous est arrivé pour être au tapis précisément?
Comme vous dites, oui, ben, j'ai fait un infarctus au mois d'août, avec 3 paquets de cigarettes par jour, si vous voulez, ça devait arriver. Mais enfin maintenant c'est terminé le tabac. Hein.
Ah bon, tiens.
Terminé, mais il a fallu attendre le pépin, mais en fait c'est terminé.
Et avant le pépin, vous avez essayé de vous arrêter plusieurs fois, non?
Non.
Même pas.
Ah non. J'ai trouvé vraiment un plaisir. Hein.
Oui, mais je comprends, oui. Mais
là maintenant, je trouve que je le paie très cher quand même.
Et maintenant, vous connaissez les risques?
Oui, mais on n'y croit pas, on pense que ça arrive toujours aux voisins.
Qu'est-ce que vous faites comme métier?
Je suis directeur d'hôtel. Non, parce que l'idiot, c'est d'avoir fumé, tiré sur les clopes comme on l'a fait, et puis d'avoir le pépin, parce qu'en fin de journée, on est quand même fatigué. Hein.
Vous avez quel âge?
52 ans.
Oui, c'est dommage.
Ouais.
Enfin, je pense que vous tous qui nous écoutez en ce moment, ça doit quand même vous interpeller, comme on dit, on se pose tous des questions, on se dit, est-ce que moi ça va m'arriver? Alors comment savoir si on est à la veille peut-être d'un pépin cardiovasculaire? Autrement dit, comment déceler le fait qu'on va se retrouver soi-même aussi au tapis? On va en parler dans quelques instants, après une pause musicale, à nouveau avec le professeur Broustet. Voilà, j'ai quitté la salle d'effort, la salle de réadaptation, je suis toujours à l'hôpital au Lévesque, dans le service du professeur Broustet. Et on va faire une pause café. Non, on va pas faire une pause café, on va faire une pause tisane. Parce que, non, je ne suis pas à la cafétéria, je suis ce qu'on pourrait baptiser la tisanerie. Parce que je m'entends vous dire qu'ici, chez le professeur Broustet, personne ne fume, c'est quasiment interdit, n'ayons pas peur de nous.
Hein. Oui, il faut le dire. Ouais.
Vous faites carrément du chantage, vous êtes terrible. Hein.
Ah oui, je suis capable d'interdire à mes étudiants de devenir docteur en médecine s'ils fument.
Vous dites ça, vous plaisantez, si vous l'avez fait déjà?
Je plaisante, mais j'ai pu quelquefois presque les menacer.
Dis donc, je me suis laissé dire, d'ailleurs, si c'est vrai, qu'une fois vous êtes rentré dans un amphithéâtre, il y avait tous les étudiants qui étaient là, et je ne sais pas combien j'ai fait, 300 ou 400 peut-être.
Oui.
Hein? Et oui. Qu'est-ce que vous leur avez dit là?
Je vais aller ici, il y a une cigarette allumée, je ne fais pas cours.
Et alors?
Mais après un certain mouvement de foule, j'ai pu faire mon cours, il n'y a pas une cigarette. Je dois dire aussi que je les ai prévenus que s'ils n'éteignaient pas leur cigarette, je les rattraperais à l'examen, même n'ayant pas fait mon cours. Mais l'amphi s'est immédiatement clarifié, l'atmosphère est devenue transparente et on a évité de salir les amphis et tout le monde a reconnu après que faire des cours dans des amphis enfumés, c'est intolérable.
Alors justement, je disais ici, on ne va pas faire la pause café, c'est pas, on ne va pas se lancer maintenant dans une campagne contre le café, c'est pas le propos, mais il y a des choses qui, lorsqu'on veut s'arrêter de fumer, dans la période de sevrage, il vaut mieux les supprimer carrément. Hein.
Oui, parce que la grande difficulté, c'est que dans l'arrêt du tabac, et dans le tabagisme, dans les cigarettes, il y en a certaines qui sont déclenchées par d'autres condiments. Il y a des réflexes conditionnés qui sont déclenchés par souvent la prise de vin et surtout la prise de café. Et tous ceux qui conduisent savent bien que quand ils ont pris un petit café, s'ils sont fumeurs, ils allument une cigarette presque instinctivement. Et s'ils ne l'allument pas, vraiment, ils ont très très envie de fumer. Et c'est là qu'est le problème des sevrages, c'est que quand on veut s'arrêter de fumer, il faut faire l'effort en même temps, et évidemment c'est dur, de se mettre à l'eau pendant toute la période où on est en train d'essayer de se sauver, pour éviter justement ces terribles envies de fumer que provoque le café. Et il faut le dire aussi, aussi quand même la boisson, non pas la boisson abusive, le simple fait de boire un verre de vin, un apéritif, un digestif, crée très souvent un besoin de fumer insoutenable.
Alors parmi tous ceux qui nous écoutent en ce moment, il y a beaucoup de routiers, et pour cause. Alors je crois que comme on dit, la population des routiers est une population socio-professionnelle qui est très très touchée par les problèmes cardiovasculaires, et notamment pour eux, le tabagisme est une cause primordiale de ces problèmes.
C'est un problème qui nous tracasse énormément parce que nous nous occupons aussi beaucoup de reclassements professionnels dans cet hôpital cardiologique, et nous avons été frappés depuis des années par le taux extrêmement élevé de routiers qui avaient des accidents coronariens étant jeunes. Et il est certain que les routiers, de par leur métier, sont pour beaucoup d'entre eux de très grands fumeurs. Or, il faut que les routiers sachent qu'ils sont une profession donc très exposée à la maladie coronaire, mais aussi ce sont eux qui ont les plus grosses conséquences professionnelles de cette maladie. Ils savent très bien que la commission du permis poids lourd leur retirera leur permis s'ils ont un accident cardiaque un temps soit peu sérieux, même si les cardiologues qui les soignent pensent qu'ils sont aptes à conduire, ils vont se heurter à la commission du permis poids lourd qui très souvent sera d'un avis différent et qui appliquera le texte du règlement qui dit après un infarctus du myocarde, un pontage aortocoronaire, sauf rares exceptions, le permis poids lourd ne peut plus être maintenu. Alors ça, c'est le premier problème majeur. Le second problème, c'est que quand il est maintenu, c'est quelquefois et même trop souvent le médecin du travail qui estime que, vu leur emploi, il y a un danger pour les autres ou pour eux, et qui refuse la reprise du travail dans l'entreprise de transport. Résultat, le routier ne peut plus retrouver son emploi, mais comme il n'est pas inapte à un travail, il n'est pas considéré comme invalide par la sécurité sociale. Donc il ne reste plus qu'à trouver un autre boulot, et comme les routiers le savent, leur qualification est celle de conducteur de poids lourd, et n'ont pas toujours une formation professionnelle derrière, pour un autre métier. Donc ils ont les pires difficultés à retrouver un emploi à nouveau, et ça fait d'énormes problèmes. Par exemple, s'ils ont fait des emprunts pour acheter une maison, comme ils sont au chômage, ils ne sont pas remboursés de leur emprunt, comme ils le seraient s'ils étaient en invalidité ou en arrêt maladie. Et on assiste à des véritables drames sociaux à chaque instant. Alors le routier qui est dans son camion, qui est costaud, qui fume comme ça sans y penser, il faut absolument qu'il réfléchisse à ça. Et il faut qu'il y pense, parce que quand la maladie lui tombe dessus, c'est tout son univers qui s'effondre, tous ses projets, et spécialement la profession des routiers.
Alors moi je voulais dire ce qu'on fait avec le professeur Roussel, notre propos c'est pas de vous faire peur, quoique si le fait de vous faire peur ça pouvait vous faire arrêter de fumer, ça serait formidable, mais on n'est pas là, bon vous n'êtes pas des enfants, mais tous des adultes, il faut prendre conscience de tous ces problèmes, et je pense que ce serait intéressant dans quelques minutes, on va écouter un peu de musique, professeur, que nous parlions des moyens quand même, parce qu'ils existent ces moyens, hein, il y a quand même un côté très optimiste là-dedans, des moyens pour s'arrêter de fumer dans de bonnes conditions, pour diminuer considérablement tous ces risques cardiovasculaires et supprimer donc ces conséquences si néfastes. A tout de suite. Bonjour, je m'adresse à Mme la générale qui nous sert de guide ce matin avec le professeur Broustet. Donc toujours ici à l'hôpital du Haut-l'Évêque, à Pessac, tout à côté de Bordeaux. Les routiers, vous êtes nombreux à nous écouter, vous connaissez bien le coin, puisqu'on est à 200 mètres de la rocade. On est tout près, professeur, de la bretelle, la sortie Bayonne. C'est ça, Bayonne. Alors, ce que vous entendez peut-être en fond sonore, c'est pas le moteur de mon camion qui tourne, là, c'est la cafetière où on fait la tisane, si j'ose dire, la tisanière. Bon, alors, professeur, on va aborder un sujet maintenant qui est très très important, c'est le problème de s'arrêter de fumer. Alors là, je crois que, bon, c'est vrai que quand on fume, on paye le prix très très cher, hein. Moi je peux vous en parler savamment, beaucoup d'autres aussi, malheureusement, tous ceux qui sont là ici pourraient vous en parler, mais il ne faut pas se leurrer, je crois que si on veut s'arrêter, il faut payer le prix aussi, il n'y a pas de miracle. Moi je fais partie des gens qui ont essayé de s'arrêter de fumer 45 fois, j'y arrivais pas, j'étais complètement dépendant de la cigarette, soi-disant je ne pouvais plus vivre sans cigarette, et puis le jour où je me suis arrêté sans problème, c'est le jour où j'ai vraiment eu la trouille, parce que j'ai eu un gros pépin, et ce jour-là je me suis arrêté. Bon. Alors je pense qu'il faut vraiment s'arrêter avant le pépin, mais il faut payer le prix, c'est pas facile, hein. C'est pas facile,
il faut quand même voir d'abord les côtés positifs de l'arrêt du tabac. Après quelques mois de souffrance, même si quelquefois on a parfois encore envie de fumer, on a en général l'atout, l'irritation des voies respiratoires qui disparaît, on respire mieux, on est moins essoufflé, et puis très vite on sent bien que l'organisme est dans un meilleur état général. Ensuite, ça c'est le bordelais qui s'adresse aux routiers qui sont œnologues, qui aiment le vin, le bon vin, et qui sont raisonnables, on goûte mieux. tous les gens chez nous le savent, il n'y a pas de comparaison possible chez les fumeurs et les non-fumeurs. Ensuite, alors l'arrêt du tabac, lui, évidemment, c'est difficile. Par expérience, vous savez qu'il y a énormément de méthodes, que les gens qui veulent s'arrêter de fumer aussi sont guettés par beaucoup de structures qui sont très désireuses de leur proposer quelque chose, quelquefois contre espèce sonnante et trébuchante. Mais en fait, l'arrêt du tabac, ça passe d'abord par une réflexion intérieure. On ne s'arrête pas simplement parce qu'on aura écouté cette cassette, là, on ne va pas s'arrêter demain ou ce soir. On va y penser. Et on va bien essayer de réaliser tout ce qui pourrait arriver si justement on était une victime du tabac. Et puis à un moment, la motivation va venir. Et quand cette motivation sera forte, à ce moment-là, on se fixe un jour d'arrêt. Et du jour où on décide de s'arrêter, il faut s'arrêter complètement. Il n'y a aucun exemple qu'une diminution progressive des cigarettes conduise à l'arrêt facile. Il y a toujours un rebond et ça repart. Pourquoi ? Parce que le tabac, c'est une véritable drogue. Ça colle au cerveau, il y a une dépendance, exactement comme avec l'alcool ou avec l'héroïne ou n'importe quoi. La différence, c'est que le tabac ne détruit pas les structures mentales. Donc le fumeur a toujours la force intérieure qu'il faut pour s'arrêter. Seulement, il a une très forte dépendance quand même. Donc s'il veut avoir un sevrage, il faut qu'il s'arrête. On ne peut pas contourner ça, il n'y a rien à faire, personne ne peut dire le contraire. Alors, pour s'arrêter, donc, il faut s'arrêter brutalement. Et pendant la période d'arrêt, surtout les 15 jours ou les 3 premières semaines, il faut absolument éviter tout ce qui rappelle le tabac. Il faut donc virer de la cabine du camion tout l'environnement tabac, l'allume-cigarette, ne pas avoir de stock caché au cas où on craquerait, parce que ça veut dire qu'on va craquer déjà ça dans le subconscient. Il faut, quand on pénètre dans un restaurant de routier, très enfumé, se méfier terriblement car on est fatigué, on se détend, on prend un verre de vin, quelqu'un vous tend une cigarette, un copain, et c'est là qu'on tout d'un coup on est très faible et qu'on craque. Donc il faut avoir une volonté d'acier. Et c'est vrai que ça passe par la motivation, et la motivation, malheureusement, souvent c'est la maladie. Et avant d'être malade, il faut bien comprendre ça, on se sent invulnérable. Et tant qu'on se sent invulnérable, on n'a pas la motivation. C'est ça, si les routiers qui écoutent ça se disent, ouais, il leur bourre le crâne, tout ça, il suit son truc, c'est un médecin et tout, qui croit pas ça, le jour où la maladie les frappe, ils sont comme les autres, les petits garçons devant la maladie. Et ça, il faut bien se mettre ça dans la tête, parce que le jour où ça arrive, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Hein.
Cela dit, professeur, vous avez fumé, vous, dans votre vie, non ?
Moi, je suis un amateur de la vanne.
Bon, mais enfin,
je peux vous dire que maintenant, j'ai même laissé tomber.
Oui, mais vous ne connaissez pas le supplice de la rêve.
J'ai connu le court supplice, ça m'a l'honneur de dire le contraire, mais le court supplice d'avoir très très envie de fumer un soir, d'avoir passé le super Havane là qui embaume, et de craquer. Et puis maintenant, je ne craque plus.
Oui. Mais cela dit, bon, mais par exemple, moi je fais partie des gens qui ont connu ce supplice. Il est quand même, il faut quand même relativiser les choses. Hein. C'est vrai que c'est très difficile, c'est très dur, mais on progresse très très vite. Et si on passe le cap des 15 premiers jours, trois semaines, je veux dire, alors après c'est très très encourageant. Hein, parce qu'on se sent tellement bien, c'est comme le fait de boire beaucoup d'eau, ça aide énormément ça. Ça on se sent très très bien, et je vous assure qu'il faut faire l'effort, parce qu'après on le paye trop trop cher, c'est trop bête. Quoi. Il faut absolument y aller, vous verrez, on y arrive très bien.
Ah, puis il faut quand même dire qu'on n'a jamais vu de délirium tremens à l'arrêt du tabac comme on le voit à l'arrêt de l'alcool. Hein.
Ah, oui. Voilà, bon, ben j'espère que tout ce qui est dans la cabine, vous passez tout ça par la fenêtre, en ce qui concerne les cigarettes et autres accessoires. On écoute un peu de musique et on se retrouve dans quelques instants. Retour à la case départ, puisqu'après ces quelques minutes passées ici, à cet hôpital du Haut-l'Évêque, dans le service de cardiologie du professeur Brousset, et ben je me retrouve à l'entrée de l'hôpital, une porte que j'espère que vous ne franchirez jamais. Alors, professeur, en conclusion, là, pour nos amis qui nous écoutent, routiers et non routiers, un petit résumé de la situation. Peut-être en premier lieu, bon, rappeler les risques encourus lorsque, bon, on s'adonne, on se livre pieds et poings liés au quatre bourreaux du cœur.
Ben, les risques encourus, c'est non seulement le risque de la maladie proprement dite, avec les complications respiratoires, vasculaires, sur lesquelles on a déjà beaucoup parlé, mais c'est aussi le risque professionnel et familial. C'est la perte de son métier, c'est la perte de son poste de travail, et c'est souvent aussi la perte de beaucoup d'espérance pour le reste de sa vie professionnelle. C'est là qu'est souvent le drame de la maladie cardiaque ou respiratoire. Je rappelle par exemple que en 2 ans, la commission du permis poids lourd de la région de Bordeaux a supprimé 146 permis poids lourd pour maladie cardiaque.
Alors, une chose très très importante, bon, vous avez entendu tout à l'heure, bon, un garçon qui était là dans la salle de rééducation, c'est le réflexe que chacun a, moi je l'ai eu aussi, de dire toujours, bon, ben, on verra bien, c'est toujours pour les autres, et puis un jour ça vous tombe dessus, mais c'est trop tard. Donc, il faut faire ce qu'il faut pour soi, il faut se prendre en main, il faut assumer, mais d'autre part, ça c'est important, c'est le côté positif de la chose, par contre, il n'est jamais trop tard, même si on est déjà bien, bien entaché par la cigarette, jamais trop tard.
Comme on disait tout à l'heure, si on s'arrête avant avec une toute petite maladie coronaire ou respiratoire, la maladie s'arrête au point où on s'est arrêté de fumer et ne progresse plus. Donc on évite le pire et on sait que si au bout de 2 ans après l'arrêt du tabac il ne s'est rien produit, on est revenu au même risque que si on n'avait jamais fumé. Ça c'est très important.
Ce qu'on a voulu faire avec le professeur Brousset, c'est donner un coup de projecteur. On sait très bien que ça serait miraculeux si simplement par le fait d'écouter une cassette pendant un peu plus d'une heure, ça vous coupait toute envie de fumer, ça vous supprimait les risques. C'est simplement pour faire prendre conscience, une fois encore c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous faire prendre conscience des risques que vous encourez. Et puis si j'ai voulu vous emmener ici dans cet hôpital, c'est dans l'espoir que vous n'y viendrez jamais. Alors on va vous laisser poursuivre la route. Moi je vous souhaite une route très belle et très très longue. Et puis cette cassette, le jour où vous penchez un petit peu, peut-être la remettre, la cassette. Hein.
Oui.
Vous la faites écouter, hein, tout ça, parce que ça peut rendre service. Et puis, dans le domaine du pratique, sachez que sur la jaquette de la cassette, vous allez trouver une sorte de test, de jeu-test même. Hein. C'est pas du tout, c'est pas en prétention scientifique, c'est simplement, bon, c'est pour évaluer en quelque sorte votre degré de dépendance hein, par rapport à la cigarette. Hein.
Mais est-ce que vous faites partie des gens pour qui s'arrêter de fumer va être dur? Il faut le savoir. Parce que sinon, on trouve que c'est tellement dur qu'on ne s'y attendait pas. Ou bien si vous faites partie des gens pour qui s'arrêter de fumer est relativement plus facile, car c'est plutôt une habitude qu'un véritable besoin.
Voilà, et puis en plus, vous allez trouver sur cette jaquette plusieurs renseignements d'ordre pratique, notamment des adresses, puis entre eux, bien sûr, celle de la Fédération Française de Cardiologie, où là, vous pourrez avoir un tas de renseignements d'adresses utiles. Voilà, écoutez, le professeur Brousset et moi, on vous souhaite une longue et belle route, et je terminerai avec la formule traditionnelle, salut les artistes, et attention, hein, relax.